إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام في بيت من بيوت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذي البدء فأحمد الله وأشكره أن يسرنا هذا، وسنواصل في هذه الليلة إن شاء الله تعالى تتمة ما بدأناه في الأيام السابقة حول مواضيع اخترناها لكم نافعة قيمة بإذن الله من باب الطهارة. فبعدما أكملنا يعني مواضيع نافعة وقيمة والحمد لله من باب المسح على الخفين وباب التيمم، وذكرنا بعض نواقض الوضوء، وذكرنا أيضا باب الغسل إلى غيرها من المواضيع، فتوقفنا معكم إن شاء الله في الأسبوع الماضي في باب أو المواضيع التي اخترناها لكم يعني تتعلق بباب الطهارة. وللتذكير أعلموا إخواني أننا تطرقنا إلى الموضوع الأول، وهو الحكم أو الفرق بين المني والمذي والوجي. الموضوع الثاني الذي تطرقناه هو حكم غسل الجمعة. الموضوع الثالث وهو حكم مس الذكر. أو الموضوع الرابع والذي توقفنا فيه هو حكم إسلامي أو حكم غسل إسلام الكافر، وسنكمله إن شاء الله قريبا. ومواضيع أخرى اخترت لكم أيضا، منها حكم غسل غاسل الميت، وهو الموضوع الخامس. والموضوع السادس إن شاء الله في هذه الليلة سنتكلم على حكم الرعاف والدم والقيء إن شاء الله. وداخل هذا الباب أيضا سنتطرق إلى حكم لحوم الإبل. والموضوع الأخير إن شاء الله حتى نكمل باب الطهارة وهو أحكام المحدث أو أحكام المحدث حدث الأصغر والأكبر، بمعنى أنه ما هي الأحكام التي يترتب عليها إذا أحدث حدثا أصغر، والأحكام التي تترتب إذا يعني أحدث حدثا أكبر ثم حدثا أصغر وأكبر إن شاء الله. Donc je disais, c'est la continuité de ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Parmi les sujets, et surtout on a traité pas mal de sujets, alhamdoulilah, on a traité plusieurs chapitres. Parmi ces chapitres, c'est Ahkam al-Tayammum, les ablutions secs. Un autre chapitre concernant comment essuyer sur les chaussettes en cuir, le khouf en général, et on a parlé sur même les chaussettes normales et les chaussures. Le troisième sujet, on a parlé sur certaines annulations ou certaines choses qui annulent les ablutions et les petites ablutions et les grandes ablutions. Quatrième sujet aussi, et c'est moi qui ai choisi ça, c'est une séance qui traite plusieurs sujets. Dans cette séance, on a traité plusieurs sujets qui concernent la différence entre al-mani ou al-wadi, je répète, hukm al-mani. Donc ça c'est le premier sujet qu'on avait traité. Donc ça c'est juste une révision, c'est un rappel ce qu'on avait traité. Et donc je répète, les deux rôles sont enregistrés sur le site de la mosquée. Apparemment c'est www.mosquée-courbet.fr si je ne me trompe pas. Vous trouvez tout dedans, tous les khutub al-jumu'ah, tous les doros enregistrés dans cette mosquée. Pour vous profiter, vous réécouter les doros, inshallah, tranquillement. Donc on a traité ce sujet la semaine dernière. Aussi, le deuxième sujet que j'ai choisi, c'est le jugement des ablutions concernant le jour du vendredi. Le troisième sujet, c'est le jugement de toucher la partie intime. Le quatrième sujet que j'ai choisi, le jugement des ablutions concernant la conversion du converti, ça veut dire... un mécréant quand il convertit, est-ce qu'il est obligatoire ou préférable qu'il fasse le bain rituel. Le cinquième sujet, aussi que j'ai choisi. حكم غسل غاسل الميت. Quel est le jugement de celui qui lave les morts? De celui qui lave les morts. Le sixième sujet, on va parler dans cette nuit, Inch'Allah. Inch'Allah, on aura le temps. Concernant le sang et Al-Qayr. Le vomissement, c'est ça? Hein? Qayr. Et aussi, on va parler sur la viande des chameaux. Parce que ça annule les ablutions. On va parler sur ça. Inch'Allah. Et le dernier sujet, on va parler en général. Qu'est-ce qui se passe pour celui, ou quelles sont les choses qu'il doit connaître, ou si on peut simplifier, quelles sont les choses qui sont autorisées et interdites pour celui qui a fait ou qui a commis une impureté mineure et majeure. On verra, Inch'Allah, c'est à la fin de la séance, comme ça on pourra terminer largement, Inch'Allah, le chapitre de purification. Donc la semaine dernière, on s'est arrêté au sujet, le quatrième sujet qui est حكم غسل الإسلام الكافر. توقفنا في الأسبوع الماضي في حكم غسل الإسلام الكافر وقرأت عليكم حديثا كما قلت لكم وأعتمد يعني كثيرا على هذا الكتاب القيم كتاب توضيح الأحكام في من بلوغ المرام للشيخ شرحه الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى ورحم الله جميع المسلمين. Donc, on s'est arrêté sur ce sujet. Donc, je disais que je me base souvent sur ce livre, qui est un livre très bien pour nous. C'est un livre qui contient que des hadiths, explication des hadiths, des avantages tirés de ces hadiths, un sens général du hadith, etc. D'une façon, une méthodologie et une façon très simple pour comprendre le hadith. Et Cheikh, il est reconnu par cette façon. Donc, on s'est arrêté sur le hadith rapporté par Abi Huraira radiallahu anhu fi qissati Tumama ibn Utharin indama aslama amarahu an nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yagtasila rawahu Abd al-Razzaq wa asluhu muttafaqun alayhi wa amma daras hadith fa huwa hadithun sahih. Donc, on s'est arrêté sur ce hadith concernant le sujet, le jugement du bien rituel concernant le converti. Concernant le converti, et pour commencer, j'ai toujours, et vous remarquez chaque fois, toujours je cite le hadith, et après, de toute façon, soit un verset s'il existe, un verset du Coran, ensuite on cite un hadith, ensuite on lit la parole des savants concernant ça. Comme ça, au moins, on saura, toujours chaque fois, on saura le jugement d'un sujet, et au moins on connaît un argument, soit du Coran, soit dans le Sunnah, ou soit on connaît les savants qui sont. Qu'ils ont choisi ce jugement comme argument, Inch'Allah. Donc, je disais que, selon le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, fi qissati Tumama ibn Utharin indama aslama, concernant l'histoire qui a rapporté Abu Huraira radiallahu anhu, concernant la conversion du sahabi Tumama ibn Utharin indama aslama. Donc, il s'est converti, cette personne, qui est Tumama Ibn Uthal, donc il s'est converti et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné qu'il fasse le bain rituel. Wa amarahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yaghtasil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'il fasse le bain rituel. Yani min dhahir hadha al-hadith kama sami'tum wa min qissat aw al-hadith alladhi yani rawahu Abu Huraira radiyallahu anhu في قصة تمام بن أثال عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن يغتسل. فالظاهر يعني الشاهد من هذا الحديث أنه يغتسل الكافر عند إسلامه، هذا هو الظاهر. وقرأت عليكم كلام الفقهاء على هذا الحديث وللإفادة أعيد. قال الفقهاء بمعنى لي سافون ils ont dit par rapport à ce hadith. Qu'est-ce qu'ils ont tiré comme avantage ? يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق شعره. Donc il est préférable pour le converti, quand il rentre en islam, qu'il prend de ses cheveux. Et aussi, ويغسل ثيابه. Et aussi il lave ses habits. أو يبدلها بغيرها. où il échange. Lima rawa Abu Daoud, d'après ce qu'il a rapporté Abu Daoud, wal Bayhaqi aussi, an Uthaymin ibn Kathir ibn Kalb al-Hadrami, an abihi an jaddihi annahu aslama. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلقي عنك شعر الكف. Donc après la conversion de Uthaym ibn Kathir ibn Kalb al-Hadrami, selon son père, selon ce grand-père, quand le prophète sallam, quand il s'est converti, le prophète sallam, il a dit إلقي عنك شعر الكف, jette ses cheveux de mécréance. Donc il a ordonné qu'il rase ou qu'il prend ses cheveux. قال النووي إسناده ليس بالقوي لأن عثيما ليس بمشهور ولم يوثق لكن أبا داود رواه ولم يضعفه وقد قال إنه إذا ذكر حديثا ولم يضعفه فهو عنده صالح فهذا الحديث عنده حسن. Donc après il cite le degré du hadith selon l'imam al-Nawawi qu'il a vu qu'il est un peu faible. Mais il recite, il dit, si Abu Daoud il a cité ce hadith, c'est parce qu'il est bon pour lui. Donc les savants se basent sur ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud et le Bayhaqi pour dire qu'il est préférable pour qu'un mécréant, quand il se convertit, il prend de ses cheveux et nettoie ses habits. Et comme vous savez, donc min hadha al-hadith, yani استنبط الفقهاء من الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي أنه يستحب الأخذ من الشعر ومنه وما يدخل فيه من غسل الثياب أو إبدالها. Quand vous savez, les savants ils sont divergés sur ça. Est-ce qu'il est obligatoire pour le converti qu'il fasse le bain rituel ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il est obligatoire ou il est préférable? Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est le sujet de base. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, on a beaucoup de convertis. Et alhamdoulilah, on remarque, de temps en temps, il y a des personnes qu'on les remarque, on observe qu'ils souhaitent se convertir. Et alhamdoulilah. Donc, est-ce que on les oblige de faire le bain rituel après leur conversion? Ou il est préférable pour eux? Où il est préférable. Donc c'est pour ça. Donc, selon ce hadith, d'après ce hadith, de l'apparence du hadith, il est obligatoire. Oui ou pas? Min dhahir hadha al-hadith, yatabayyin lana, na'am, jazakallahu khayra, yatabayyin lana annahu yajib al-ghusl liman aslam. Hadha huwa dhahir al-hadith. Lakin al-ulama ikhtalafu. العلماء اختلفوا هل للوجوب أو للاستحباب. Je vais vous lire, inshallah, un passage. C'est un avis qui tranche et qui éclaircit cette divergence. Pourquoi? Parce que les savants sont divergés. Est-ce qu'il est préférable ou il est obligatoire? Je vais vous lire ce qu'il a choisi l'auteur, Cheikh Abdallah al-Bassam. Est-ce qu'il a choisi les préférables ou est-ce qu'il a choisi les obligatoires? Donc Cheikh, dans son habitude, toujours il cite le hadith. Ensuite, il dit des fois qu'est-ce qu'il a dit Imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit Imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a dit Ahmed ibn Hanbal. Et après lui-même, Cheikh, il est reconnu par sa science, il essaie de trouver ou donner l'avis le plus fort ou prédominer ses avis. Parce que des fois, il y a une divergence. Donc Cheikh, de son habitude, dans ce livre, on le remarque souvent, toujours il cite l'avis le plus fort. Donc je vais vous lire ce passage parce que l'avant c'est un peu long. Mais vous allez comprendre, inshallah. الراجح أن غسل الكافر إذا أسلم, ça c'est le Cheikh Abdallah al-Bassam, il y a beaucoup de savants qui ont choisi cet avis, il n'est pas le seul, et après il va dire pourquoi. إذا أسلم مستحب وليس بواجب. Donc Cheikh il dit, il est préférable. هذا رأي الشيخ عبد الله البسام. يقول أنه مستحب وليس بواجب. لما يأتي؟ Pour ces raisons. La première, c'est-à-dire, le hadith il est clair qu'il dit qu'il est obligatoire, oui ou pas. ظاهر الحديث يدل على أنه واجب وصل الإسلام يعني لمن أسلم. لكن الشيخ يرى أنه الاستحباب. لماذا؟ Pourquoi الشيخ الذي اللي بخير عبد sachant que le hadith il est clair. الشيخ الذي الشيخ قال هو مستحب مش واجب. Pourtant le hadith il est clair. لا propre et se laver etc. نعم c'est vrai mais ça concerne le converti. Ça concerne le jour du vendredi. Nous, on parle sur un converti. On est, soi-disant, le lundi. Avant vendredi, c'est converti. Est-ce qu'on l'oblige qu'il fasse les grandes ablutions parce que c'est converti? D'après le hadith ou... Non, supposons que c'est bon. Il a dit shahada, alhamdulillah, tout va bien. La question c'est, il est rentré dans l'islam. Voilà, c'est ça la question. On sait que il va faire le bain rituel, on sait qu'il va le faire. La question d'aujourd'hui c'est, est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est préférable? C'est ça la question. Normalement c'est une obligation. Ah, cher Galek, normalement c'est une obligation. Masha'Allah. Masha'Allah. On verra. C'est pour ça que je vous dis, j'ai lu le hadith. Et selon le hadith, d'après la conversion de Tumama, Ibn Uthal, lui confessant qu'il s'est converti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'il fasse le bain rituel. Donc c'est pour ça qu'il y a certains savants, ils ont dit, il est obligatoire, d'après ce hadith. Ça c'est ce qui est clair. Mais le shir, celui qui a expliqué ce livre, il a expliqué même le hadith, lui il a choisi, il est préférable. Il n'est pas obligatoire. Ma question, pourquoi à votre avis? Non, oubliez le vendredi, oubliez le vendredi. Oui, oui, oui. Ah d'accord, donc toi tu signes comme par exemple le mécréant, parce que certainement il a une impureté majeure, peut-être il est en jeûne, ou parce que peut-être ses habits sont sales, ou même lui-même, peut-être, il a une impureté, donc on le recommande qu'il fasse le bain rituel. Ça, on est sûr et certain. Je répète la question, est-ce qu'il est obligatoire? C'est ça, nous, on sait qu'il va faire. Barakallah. Lui, alors, mashallah, il a bien compris. Il a dit, d'après le hadith, le prophète, il a ordonné qu'il fasse les ablutions. Donc, on ne va pas chercher est-ce qu'il est préférable ou pas. Mais les savants, ils sont divergés. Ah. Et le cheikh, il a dit, il est préférable. Sachant que le hadith, il dit qu'il est obligatoire. Donc, c'est pour ça, je vous dis, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une bonne réponse. Et ça. Tu vois pas pourquoi? Je vais vous lire ce qu'il a dit le cheikh. الراجح c'est-à-dire l'avis le plus fort, l'avis le plus prédominant parmi les avis concernant ça, أن غسل الكافر إذا أسلم مستحب. Donc الشيخ il a dit il est préférable. وليس بواجب لما يأتي. Il n'est pas obligatoire. Pourquoi? 1. Écoutez très bien. إن العدد الكثير والجمة الغفيرة
أسلموا فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا. الشيخ يجي combien de personnes sont converties à son époque. Barakallahu fik. Donc il a dit, Cheikh, il dit, pourtant il y a beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'il a dit, Al-Adad al-Kathir, ils sont nombreux. Ou Al-Jum al-Ghafir, nombreux. Ils sont convertis, mais ils n'étaient pas rapportés, c'est-à-dire, on ne connaît pas des textes qui s'étaient rapportés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à tout le monde qu'il fasse le bain rituel. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que c'est pas, on n'a aucun texte, aucune trace qui peut dire que le prophète a ordonné à chaque converti et tous les convertis de son époque qui font le bain rituel. Donc c'est pour cette raison, c'est pour ça il a dit, il est préférable. Deuxième raison. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. Vous connaissez bien l'histoire, le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi Mu'ad ibn Jabal. Et l'a envoyé de faire un da'wa. Fi sabilillah. Vers où? Vers l'Yémen. Tayyib. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé de faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il a dit à Mu'ad ibn Jabal quand on l'a envoyé de faire un da'wa fi sabilillah? قال ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. Le prophète sallam, il a demandé Mu'adh ibn Jabal, il va faire la da'wa. C'est ça? Allahu a'lam, je ne connais pas le. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal qu'il fasse la da'wa fi sabilillah. C'est-à-dire qu'il propage l'islam. Dans le but de propager l'islam. Il a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé? La première chose. An yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La première chose qu'il a demandé à appeler, c'est al-shahada, la double attestation. C'est ça? La double association. Après, il a dit, s'il te répondent, parce que dans la Cheikh n'a pas cité le hadith, mais le hadith, il est connu. S'ils te répondent, tu leur dises que ils ont une prière obligatoire. S'ils te répondent, tu leur dises qu'il y a une... Quoi? Zakat. Zakat. Etc. Donc ça, c'est le hadith. Donc ça c'est le hadith. Donc ils étaient mécréants. Et Mu'adh ibn Jabal, ils ont renvoyé le prophète sallam, jazakallahu khair. Et Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallam a renvoyé Mu'adh ibn Jabal, qu'ils appellent à la ilaha illallah. Cheikh il dit, walaw kana al-ghusl wajiban. Si le ghusl il était obligatoire, il aura commencé par ça, oui ou pas? Mais pourtant, il n'a pas cité dans le hadith. Il aura dit, dites la ilaha illallah, ensuite faites vos ablutions, oui ou pas? Et après faites la prière, sachez qu'il y a des prières obligatoires, s'ils font, etc. Dans le hadith, il n'est pas rapporté qu'ils ont recommandé qu'ils fassent le bain rituel après leur conversion.
ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به.
Il a dit, Cheikh, il dit, si le bain rituel était obligatoire, il les aura
ordonné. لأنه أول واجبات الإسلام.
Parce que c'est vrai, après la conversion, la première obligation, si c'était obligatoire, ça devrait être le bain rituel. S'il était obligatoire, oui ou pas? Parce que s'il était obligatoire, pourquoi il n'a pas cité le Prophète sallam dans le hadith? Donc c'est pour cette raison qu'il a dit, il n'est pas obligatoire. Il est préférable. Donc vous remarquez, d'après ces deux points, Cheikh, il a dit de lui qu'il est préférable. Al-Khattabi, après il a cité
Il parle du savant, Al-Khattabi. أكثر أهل العلم على استحباب الغسل لا على إيجابه.
La majorité des grands savants, ils choisissent qu'il est préférable. Est-ce que c'est clair? Ils choisissent qu'il est préférable
et non pas obligatoire. والاستحباب هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة.
Imam Ahmed ibn Hanbal, il a une autre version qui dit que il est préférable
le bain rituel pour le converti. وبهذا فحديث قيس ابن عاصم وحديث تمامة ابن وثاب يحملان على الاستحباب.
Donc les hadiths, le premier hadith que j'ai cité, on doit comprendre, ce qu'on doit tirer de ces hadiths, que le bain rituel dans ces hadiths, il n'est pas obligatoire, mais il est préférable.
وقد أجمع العلماء على مشروعية الاغتسال.
Et les savants, ils sont unanimes que le bain rituel pour le converti, c'est une chose de l'islam. Est-ce que c'est clair? C'est une chose de l'islam. Il est préférable, comme on avait expliqué, il est préférable qu'il le fasse.
إلا أن بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب.
Et parmi eux, il voit qu'il est préférable, et parmi eux, il voit qu'il est obligatoire. Mais l'avis qu'il a choisi le Cheikh, il a donné les arguments, les deux points qu'on a traités, qu'il est préférable pour le converti qu'il fasse le bain rituel. Wallahu ta'ala a'lam. De quoi? On n'a rien. Il y a un texte. Mais il dit ce texte, ça concerne un seul sahabi. Parce que le sahabi qui citait dans le hadith, c'est lui le prophète a demandé à ce sahabi qu'il fasse les grandes ablutions. Mais pourquoi on n'a aucun texte qui dit que chaque converti à son époque, le prophète a ordonné qu'il fasse le bain rituel? On n'a aucun texte. Donc c'est pour ça qu'ils disent que ce n'est pas normal. Parce que s'il était obligatoire, on aura un texte où il était rapporté qu'aujourd'hui. C'est pas possible qu'il est obligatoire et on ne sait pas. Est-ce que c'est clair? Mais s'il a demandé au sahabi, peut-être le Nabi sallam, Allahu a'lam, pour la raison, pourquoi lui-même il a demandé qu'il fasse le bain rituel. Mais le fait qu'il a demandé, ça prouve qu'il est préférable. Allahu a'lam. Ça, c'est une grande question qui nécessite des doros et des doros. La bonne question qu'il a posée, il a dit, comment on sait, comment on peut tirer dans les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même dans le Coran, que ça, il est obligatoire ou il est préférable? Et comment on le distingue? Le prophète a ordonné une chose. Pourquoi on ne dit pas il est obligatoire qu'il tire? C'est toujours obligatoire. Mais des fois, on trouve dans le texte, il a ordonné, mais le sens de ce mot, dans le hadith ou dans le verset, il signifie il est préférable. J'ai répondu, j'ai dit, ça nécessite des doros dans les fondements de jurisprudence. Donc, au sol, al-fiqh, dans le jugement, les fondements de jurisprudence, donc au sol, al-fiqh, on a ce chapitre, bab al-amr, le chapitre de l'ordre. Comment, quelles sont les expressions d'un ordre? C'est-à-dire, comment on peut comprendre que ça, c'est un ordre qui implique une obligation, ou cette expression qui déduit ou qui implique que ça, il est préférable? Est-ce que c'est vrai? Donc, le shir, il a dit, si on applique ce hadith, c'est vrai, on a le terme, il a ordonné dans le hadith. Mais les savants, ils ont dit non, il est préférable. Il a donné une raison, il a dit, s'il était obligatoire, pourquoi il a spécifié que sur le sahabi? Il aura dit, pour tout converti, il doit faire le bain rituel. Mais il a dit à cette personne. Et c'est pour ça que le shir, il a dit, pourquoi? Et deuxième chose, comme il a dit, s'il était obligatoire, pourquoi il n'était pas rapporté par que On n'a aucun texte qui dit que pour tous les convertis, pourtant il y avait beaucoup, beaucoup de convertis, on n'a aucun texte qui prouve que chaque converti s'est converti à son époque, le prophète l'a ordonné qu'il fasse le bain rituel. Et le troisième argument qu'il a dit, cité le shirk, il a dit, comme Mu'ad l'a envoyé au... Mu'ad ibn Jabal l'a envoyé à même, il a demandé qu'il appelle à la double attestation. S'ils te répondent, tu leur dis qu'il y a une prière obligatoire. Pourquoi il a délaissé ça? Si c'était obligatoire. Donc tu vois, c'est pour ça, pour comprendre une chose qui est obligatoire, ça nécessite un dars concernant dans les fondements de jurisprudence, et on n'aura pas l'occasion déjà mais de parler de ça parce que le niveau il est un peu élevé, mais on pourra le simplifier. On pourra le simplifier, on peut distinguer le contexte, parce qu'à la base, il y a une règle pour vous simplifier une chose. Parce que le fait de dire oui, c'est niveau élevé, non. On peut simplifier. Il y a une règle qui dit dans les fondements de jurisprudence. Al-amr yufid al-wujub. Al-aslu fi al-amri yufid al-wujub illa idha sarafahu sarif. Je traduis. À la base, un ordre dans un hadith, c'est une obligation. Quand le prophète dit un moment, faites ça, à la base, c'est une obligation. Ça, il faut comprendre, ça c'est à la base. Tu dis pas non, mais à la base, il est préférable. C'est-à-dire, le prophète, il a ordonné de qu'on fasse une chose. On dit, mais de toute façon, c'est pas une obligation, c'est préférable. Non, le lama, il dit qu'à la base, il est obligatoire. Sauf si une chose nous montre qu'il n'est pas obligatoire. Comme ce hadith. Il y a des choses, c'est pour ça que la Sidi a dit, s'il était obligatoire, il aura ordonné à tous les convertis. S'il était obligatoire, il aura demandé à Mu'ad ibn Jabal qu'on l'a envoyé, qu'il commence par ça, et etc. Donc il y a des choses qui indiquent qu'il n'est pas obligatoire. As-salat, elle est obligatoire ou pas? Pourquoi? Plus que ça. Qui peut me donner un seul verset qui prouve que la prière elle est obligatoire? Wa aqimu salat. Vous remarquez ou pas? Wa aqimu salat. Donc le terme aqimu, dans les fondements de jurisprudence, pour vous simplifier, ils disent ça c'est un verbe en impératif. Donc à la base, un verbe en impératif, il implique un ordre, donc il implique une obligation. Et il y a autre chose, beaucoup de choses. Par exemple, si dans un texte on trouve un châtiment. On trouve un châtiment. Ça implique que ça, est-ce qu'il est préférable ou obligatoire? Ça implique qu'il est obligatoire. Parce que s'il est préférable, il n'y aura pas un châtiment si on le délaisse. Oui ou pas? Donc c'est pour ça qu'il y a, ça c'est dans les fondements de jurisprudence, on traitera ça, Inch'Allah. Donc c'est pour ça dans ce hadith, il y a beaucoup de choses qui prouvent qu'il est préférable et non pas obligatoire. Concernant... Allah. Oui? Concernant quoi? Ouais. J'ai compris, ouais. Non, c'est pour ça. Il faut pas lire un hadith d'un livre où on entend tu l'appliques. Non. Il y a des ulama qui ils ont étudié des années. Ils essaient de regrouper. C'est pour ça, les meilleurs savants, en général, c'est toujours, ils essaient de traiter au maximum de... C'est-à-dire, ils essaient de... Par exemple, il a un sujet. Il veut savoir, par exemple, n'importe quel sujet dans la jurisprudence. Il essaie de regrouper tous les hadiths concernant ce sujet. Pour commencer à traiter le sujet. Nous, non. J'ai entendu un hadith dans un livre. Hein. Par exemple, moi, j'ai un livre chez moi. Je l'ouvre le livre, je lis les hadiths, je viens à la mosquée, ah non, ça c'est Yajouz, ça, là, Yajouz, ça, etc. Et ça arrive. Beaucoup de gens, ils font ça. Ils pensent que ce qu'il est dans le livre, c'est bon. C'est lui le halal, c'est lui le haram. Ça peut être halal et haram, il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas se précipiter. C'est vrai, comme il dit le shir, parce que tout le monde, il a dans sa tête qu'il est obligatoire, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que selon le hadith. Mais le ulama, il regroupe tous les hadiths, il dit, C'est-à-dire, regardez, Cheikh, il n'a pas dit selon le hadith, il est obligatoire, il a mis un point, il s'est bon, il a passé au chapitre suivant. Non. Il a dit, attends, j'ai ce hadith. Je ramène le hadith, le point que le fait des milliers et des milliers de convertis ne sont pas convertis, on n'a aucun texte. Ensuite, il a rajouté, ah, comment Ali ibn Jabal il a envoyé Yaman. Il n'a pas demandé, il n'a pas demandé qu'il recommande, qu'il ordonne tous les convertis de faire les. Et après, vous remarquez, l'ensemble des hadiths, là il a tiré qu'il est préférable. Est-ce que c'est clair? Et ce n'est pas un seul hadith, on peut déduire que directement que c'est obligatoire. Et ça c'est les savants. Souvent les savants toujours essaient de regrouper au maximum de versets, maximum de hadiths, maximum des paroles des sahaba, parce que des fois il y a des sujets qu'on ne trouve ni dans le Coran, ni dans le sunnah. Ça il faut le savoir. On a des sujets où il n'y a pas le verset. Clair. Il n'y a pas un texte. Mais il y a des sahaba. Il y a beaucoup de sahaba. Parce que le prophète il a dit Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiin min ba'di. Le prophète a dit suivez ma sunna et la sunna des quatre califes. C'est clair et net. La parole de Abu Bakr, elle est meilleure que la parole d'un savant ou d'un habile. La parole de Omar ou de Khattab, elle est meilleure que la parole d'un alim ou d'un habile. La parole de Uthman ou Affan, elle est meilleure que la parole d'un savant ou d'un habile. Et la parole de Ali ibn Abi Talib, elle est meilleure qu'un savant et la parole d'un habile. C'est pour ça, il y a des sujets, c'est pour ça les sahabas essaient de regrouper au maximum de choses. Et des fois, même les sahabas, ils sont pas d'accord sur ça. Ils essaient de, après, ils rajoutent une couche. On rajoute les paroles des sahabas, parce qu'il n'y a pas que ces quatre califes. Par exemple, dans Tafsir al-Qur'an, la référence, à la base, on revient à l'explication de Ibn Abbas. Dans Tafsir al-Qur'an, on revient à l'explication de Ibn Abbas. Parce que le prophète, il a fait deux il a dit, Allahumma, il connaît le dua, qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Ibn Abbas. Ibn Abbas, il appelle Hibr al-Umma. Hein? Allahumma faqihu fi d-din wa allimhu al-ta'wil. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le dua. Il a pris Allah, il a invoqué Allah, qui le donne de la science, de la jurisprudence, et il connaît le tafsir. C'est pour ça que si vous revenez dans les tafsirs, vous trouvez Ibn Abbas qal, Ibn Abbas qal, Ibn Abbas qal. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul dans le tafsir, mais l'ensemble des sahaba aussi ont dit tafsir. Donc c'est pour ça que les savants toujours essaient de regrouper un maximum de versets, maximum de hadith, maximum des paroles des sahaba, et après des tabi'in, et après des tabi'in, tabi'in. Et ça suffit largement, mon frère. Ça, Qur'an et Sunnah, et les paroles des sahaba. Et c'est pour ça que Ibn Qayyim dit Al-ilmu, qala Allahu, qala Rasulu, qala Sahabatu, hum ulul irfani. C'est pour ça les références Al-Qur'an, et Al-Sunnah et la parole des sahaba. Si les quatre califs sont d'accord sur une chose, on ne peut pas venir en 2010 et de dire non, non. Wallahi, on entend beaucoup de ça. On entend beaucoup de gens quand on dit non, Ibn Omar ibn Khattab a dit. Et non, en 2010. Allahu musta'an. Revenez au fara'il sahaba. Prenez par exemple, prenez Sahih al-Bukhari. Fara'il sahaba. Lisez. Qu'est-ce qu'il a de particulier à Omar ibn Khattab? Qu'est-ce qu'il a de particularité à Abu Bakr? Radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il y a de particularité? Ali, Uthman, certains sahaba. Lisez, vous allez voir la valeur de ces quatre califes. Et maintenant, quand on dit, les quatre califes, ils n'ont pas fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de texte, il n'y a pas du Coran. Il n'y a pas un texte dans le hadith. Le prophète n'a pas cité. Les quatre califes, c'est quoi le temps qu'ils ont vécu, les quatre califes? De Abu Bakr jusqu'à Ali, combien d'années? 30 ans de la période de vie entre, pas de vie, de la calife, c'est 30 ans. Des fois on dit, ça, il n'existe pas un sujet. Par exemple, quelqu'un qu'on dit, il n'existe pas dans le verset. Il n'existe pas dans le hadith. Abu Bakr ne l'a pas fait. Omar ibn Khattab ne l'a pas fait. Ali, Uthman ibn Abi ne l'a pas fait. Ali ibn Abi Talib, il ne l'a pas fait. Je dis, mais non, non, 2010. Est-ce que nous, on est meilleurs que Abu Bakr et Uthman, et Omar et Uthman et Ali pour faire une chose? Si c'était bien pour la religion, ils nous auront précédé de le faire. C'est pas possible que nous, on va leur dépasser dans l'adoration. C'est pas possible. Ils ont vécu avec le prophète sallam. Ils ont vu le Coran se révéler sur le prophète sallam. Ils ont vu qu'avec le prophète sallam. Ils l'ont pas fait. Ils ont pas compris ce que nous on comprend maintenant. Et pourtant ils l'ont pas fait. Ils l'ont délaissé. Ils l'ont pas fait. Et nous on vient. On dit non, soyez tout ça. Mais non, ça fait partie de la religion. Pourquoi? Différents trucs carrément. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et dans une version, les meilleurs siècles, c'est mon siècle, et celui qui suit, et dans une autre version, celui qui suit, c'est-à-dire le troisième siècle. C'est pour ça que les savants ils disent, les meilleurs siècles de tous les temps, c'est les trois siècles, c'est-à-dire le siècle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les deux siècles qui sont suivis, le siècle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si une chose, elle n'est pas dans le Coran, il n'y a pas dans le Sunna, il n'y a pas dans le Sahaba, qui ont vécu dans le premier siècle, il n'y a pas des tabi'i deuxième siècle, des tabi'i troisième siècle, c'est pas la peine qu'on fasse. C'est pas possible que nous, on va les dépasser dans l'adoration, c'est pas possible. Eux, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé sur... Oui, il a parlé. T'inquiète, il a parlé. Il a parlé. Il a dit, non, nous aussi, on a une chose que les sahabas n'ont pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais je parle sur la base. Nous, bien sûr, on a des récompenses. Comme il a dit, il a dit, il viendra un temps, un effort parmi une personne qui sera à l'époque, c'est-à-dire à notre temps, et la récompense en termes de récompense, il vaut 50 fois ce que vous faites. Alhamdulillah, ça c'est une ni'ma. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma. Mais pour dire, on revient au sujet que on doit faire attention que c'est pas parce qu'on a un seul parole, ou un seul avis, ou une parole d'un savant, on vient venir et ça y est, ça y est, doucement, les frères. Les savants, il ne faut pas ça. Les savants, quand ils posent une question, des fois, s'ils connaissent, ils te disent oui, mais s'ils ne connaissent pas, ils disent Allahu Alam. Qui parmi nous dit Allahu Alam, les frères, Allah, sérieusement? Jamais. Qui parmi nous dit Allahu Alam quand on lui pose une question? Si je vous pose, si un sujet, il est traité, tout le monde parle. Tout le monde. Al-Jahil ou Al-Alim. Al-Salih ou Al-Tahir, il va parler. Et le savant, quand tu poses une question, avec sa science, avec sa raison, il va dire, s'il estime que ça nécessite du temps, il va dire, Allahu Alam. Je vais chercher. Beaucoup, j'ai parlé beaucoup. Et j'étais parmi, qu'Allah nous préserve, on se précipite à parler. N'importe quel sujet, on parle. N'importe quel sujet. On m'a dit que si c'était dans Dine, hey, mon frère, là on devient tous des savants. Si on donne un sujet, on dit, par exemple, un sujet s'est arrivé dans le... Par exemple, je donne le cas de l'occasion, avant-hier ou hier, un enfant est venu. Apparemment, il a dérangé. D'ailleurs, tout le monde a parlé. À l'exception de personne. Tout le monde parle. Là, il y a 12, pourquoi le ramen, pourquoi ça. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Je ne parle pas sur le fait qu'il y ait des jugements, ça c'est un autre sujet. Pourquoi qu'on parle sur tout? Pourquoi? Tout le monde parle. Le savant, tu poses la question, tu dis Allahu A'lam. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahu A'lam. Qui peut me rappeler le hadith ou le sujet quand est-ce qu'il a dit Allahu A'lam? Non. Il a dit Allah a'lam. Hein? Non, il y a une histoire qui s'est passée au Prophète, il a dit Allah a'lam fiha. Sahaba, ils ont demandé au Prophète, quelle est la meilleure terre? Il y a un autre sujet. Il y a beaucoup. Il y a un sujet qui est connu. Les compagnons, ils ont demandé au Prophète quelle est la meilleure terre, quel est le meilleur endroit sur terre. Et quel est le pire endroit sur terre? Qu'est-ce qu'il a dit le Prophète? Il a dit Allahu A'lam. Le Prophète, lui-même, il a dit Allahu A'lam. Et nous? Ah, Samir. Ah, khoui. Nous, c'est un défaut si on dit Allah. Pour nous, si par exemple, celui qui est là, il est en train de faire un dars, si une personne. Ça arrive, on entend beaucoup. Si une personne me pose une question bête, par exemple, une question, et je réponds à l'année, mais je dis regarde, même ça, il ne connaît pas. Malheureusement, on arrive à ça. Quand tu dis Allah, c'est un défaut, c'est un manque. Un savant, il dit Allah, même ça, il ne connaît pas. La dernière fois, le frère m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que toucher la partie intime d'un bébé, ça annule les abus? Je dis Allah, il y en a, il y en a rien de. Il pense que ça, c'est. On va parler sur ça. Aïe. Prépare-toi bien, mon frère. On va parler en général, inchallah. Tout le monde dit, oui, comment ça se fait là? Donc le prophète, il est parti voir Jibril. Il a dit, il a posé la même question que le sahaba l'ont posé. Quel est le meilleur endroit sur terre? Et quel est le pire endroit sur terre? Jibril, qu'est-ce qu'il a répondu? Allahu A'lam. Vous remarquez la valeur de Allahu A'lam, c'est pour ça que les ulama disent Allahu A'lam, nisfu al-ilm. Le mot Allahu A'lam, il n'y a que là qui sait. C'est la moitié de la science. Jibril, il est parti voir, il est parti demander à Allah Ta'ala. Il a répondu, il a dit la meilleure. Allez, il est dans Sahih al-Bukhari, vous le trouvez. Dans Sahih Muslim. Et vous le trouvez dans les livres. Il a dit le meilleur endroit sur terre. C'est les mosquées. Meilleur endroit sur terre. Non. Il a dit, et les mauvais, et les pires endroits sur terre, c'est les marchés. Le marché. Le marché. Ouais, ils sont pas là, malheureusement. Marché. Mercredi et le samedi et dimanche, mashallah, rempli plus que la mosquée. Ça, c'est une réalité. C'est pas moi qui blâme ou qui parle sur certains gens. Non, c'est une réalité. C'est plus que la mosquée. On se déplace, on paye le bus, on appelle le frère, passe me chercher pour aller tel brocante, tel marché, tel truc. Mais le masjid, il trouve toutes les excuses. J'ai mal au dos, il fait froid, il fait nuit, il est loin. On trouve toutes les excuses. Mais, Allah al-Musta'an. Donc ça, en revenant, les pires endroits, c'est les marchés. Et c'est pour ça que je vous déconseille d'aller au marché pour aller au marché. Et on trouve, et le pire, nos femmes et nos enfants et nos soeurs. Ça, c'est un autre sujet, ça. Allahu musta'an. Ils vont leur passer leur temps. Toi, tu rentres pour acheter des légumes en baissant le regard. Tu speed pour acheter rapidement et tu la trouves, masha'Allah, elle parle. Comment elle est habillée, comment elle parle, avec qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Ilallah al-mushtaq. Et à la mosquée, combien de sœurs ils font la prière ici? Allahu A'lam. Combien de sœurs ou de nos femmes viennent apprendre la science? Allahu A'lam. Ça, c'est un autre sujet. Qu'Allah nous préserve. Donc, revenons, même Jibril a dit Allahu A'lam, même le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous, si on dit Allahu A'lam, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'il a dit, dire Allahu A'lam, c'est la moitié de la science. Taïb. Revenons au sujet suivant, inshallah. Pour avancer. Donc on avait parlé
le jugement
du bien rituel concernant le converti.
Je vais parler sur un sujet qui est le
la première de la prière de l'Isha. Hein? Alhamdulillah.
Le cinquième sujet que j'ai choisi, c'est Hukmu Rusli Rasil al-Mayyit,
le jugement de celui qui lave le mort. De celui qui lave le mort. Je vais lire le hadith et l'explication rapidement pour passer au sujet suivant qui est très intéressant, inshallah. Tout est intéressant, alhamdulillah. Non. Donc ça c'est le sixième sujet qu'on va traiter, inshallah, dans cette nuit.
Selon Abu Huraira radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغسل ومن حمله فليتوضأ.
Hadith qui est rapporté par Ahmed et Nisa'i wa Tirmidhi wa Hassan wa قال Ahmed la yassifu fi hada al-babi shay. Donc le hadith selon Abu Huraira radiallahu anhu, قال que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من غسل ميتا فليغتسل. Celui qui lave un mort, qu'il fasse le bain rituel. On ne parle pas sur le bain rituel du mort. On parle de celui qui lave. Du mort, certainement on le lave. C'est son droit. On va parler peut-être, quand on avance, inshallah, dans Ahkam al-Janaiz, on parlera sur Rusl al-Mayyit, Sifat Siyan al-Janaza, Kaifa, Kaifa, Inshallah. On parle maintenant sur de celui qui lave le mort. Celui qui lave. Il prend le mort et le lave. Donc celui, est-ce que il est obligatoire qu'il fasse le bain rituel ou pas? Donc selon le hadith, il dit « Man ghassala mayitan falyaghtasil ». Celui qui lave un mort, qu'il fasse le bain rituel. Et celui qui le porte, il le porte, qu'il fasse les ablutions. Ah, ce hadith il est rapporté dans Ahmed ibn Nisa'i wa Tirmidhi. Mais Ahmed ibn Hanbal a dit, il n'y a aucun texte fort et authentique concernant sur ce sujet. Je vais vous lire, Inch'Allah. Le jugement de celui qui lave le mort. Est-ce qu'il suffit? Est-ce qu'il fait, s'il a les ablutions, est-ce que il refasse ses ablutions, ou est-ce que carrément ça nécessite le bain rituel? Je vais vous lire l'explication. Donc qu'est-ce qu'il a dit le cheikh?
Ma yukhadu min al-hadith, ce qu'on peut retirer d'après le hadith. Il dit zahiru al-hadith wujubu al-ghusl ala man ghassala maytan kullahu aw ba'dahu. De l'apparence du hadith,
remarquez, je précise, j'ai lu un seul hadith.
L'apparence du hadith, on dit directement que il est obligatoire le bain rituel de celui qui lave complètement un mort ou une partie d'un mort. 2. عموم الحديث يفيد عموم الأموات من كبير أو صغير ذكرا كان أو أنثى مسلما كان أو كافرا بحائل أو بدون حائل.
Depuis le hadith, il a dit, comme le dit sallam, من غسل ميتا, celui qui lave un mort. Le terme mort, elle est générale. Donc, ça englobe soit homme ou femme, enfant, c'est-à-dire un enfant ou un grand, ou un musulman ou un mécréant, ou même il a lavé soit avec un bihaïd, avec un intermédiaire, avec on va dire des gonds par exemple, avec un intermédiaire, ou sans. C'est-à-dire il a touché carrément. Dans tous les cas, de l'apparence du hadith, il est obligatoire. Là, je vais vous dire, c'est un résumé, qu'est-ce qu'ils ont dit les fuqaha concernant ça. C'est le résumé.
قال الفقهاء الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة.
Donc il a défini c'est qui le terme ghas, c'est-à-dire c'est qui celui qui lave, qu'est-ce qu'il fait? huwa man yuqallibuhu.
C'est-à-dire, il le détourne dans tous les sens, c'est ça?
Il le détourne. Wa yubashiruhu. Et c'est lui qui le lave directement. Wa law marra, même s'il le lave une fois. La min, la man yasubbu al-ma'a wa nahwah. Et non pas celui qui verse l'eau. Ça arrive qu'il y a un qui lave et l'autre qui verse de l'eau. On verra comment laver un mort, inshallah ta'ala. Je parle, il peut y avoir une deuxième personne, celui qui verse de l'eau, c'est-à-dire l'eau, le premier, il s'occupe de laver et de le retourner dans tous les sens pour le laver correctement, et un deuxième qui lave, qui verse de l'eau. Donc celui qui verse de l'eau, ça ne concerne pas, il n'est pas rentré dans le hadith. Pourquoi? Parce que le hadith dit man ghassala, c'est-à-dire celui qui lave, le mot laver, al-ghassil. Quatrième chose, a'arada hadha al-hadith. Donc vous remarquez, le hadith, le premier que je viens de citer, il prouve que il est obligatoire. Oui ou pas? Il n'y a rien qui peut. De la part. C'est-à-dire, si on prend ce hadith, on dit qu'il est obligatoire. Si on prend juste ce hadith, on dit directement qu'il est obligatoire. Et savoir qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire, ils ont ramé des autres hadiths. Vous allez écouter. A'arada hadha al-hadith, ma rawahu al-bayhaqi. Et parmi les choses, il y a parmi les hadiths qui a contredit ce hadith. Qui a contredit ce hadith. Qui a rapporté Al-Bayhaqi. An Ibn Abbas, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqal. Ibn Abbas a rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam aqal. Laysa alaykum man ghassala mayyitakum ghuslun idha ghassaltumuh. Inna mayyitakum yamutu tahira wa laysa binajis. فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. Je traduis. ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. Donc vous n'avez pas de faire un bain rituel quand vous lavez vos morts. Ça c'est le hadith. إن ميتكم يموت طاهرا. Vos morts, ils sont propres. Ils meurent propres. وَلَيْسَ بِنَجِسِ. Ils ne sont pas impropres. فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ. Il vous suffit de laver vos mains. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce hadith? Ah, ça c'est un autre sujet ça. Là, on va revenir dans l'Ahkam al-Janaiz. On aura l'occasion de parler qui le lave, quelles sont les conditions. En fait, c'est simple, c'est plus qu'on complique. Parce que souvent, des fois, on complique les choses. Hein. Des fois, il n'y a même pas des conditions. Il n'y a rien. Mais non, il faut des conditions. Il faut ça. Ouais, pas tout ça. Hein? Non. Normalement, je vous le dis, il y a Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a écrit une lettre. J'ai ramené l'explication de cette petite risale. Ad-durus al-muhimma li'amati al-umma. Les cours. Ad-durus al-muhimma, kif. Les cours importants pour. Hein, pour la communauté. Il a fait quelques pages, trois pages, quatre pages peut-être. Il a regroupé tout ce que le musulman doit connaître. Et parmi ça, comment laver un mort. Donc il ne faut pas comprendre et dire, de se mettre dans la tête des gens, laver un mort, c'est une mission impossible. Chacun parmi nous, il doit apprendre. Pourquoi? Un cas très simple. Si ta femme, elle te dit, je veux que c'est toi qui me laves, tu dis quoi? J'ai peur. Si ta femme, elle te dit, c'est toi qui vas me laver si je meurs, qadar Allah. C'est-à-dire, si celui qui meurt le premier, c'est l'autre qui va le laver. C'est noisillant. Noisillant, comment? Un testament. Noisillant. Elle te dit, elle ne va pas te laisser les maisons, elle n'a pas de maison de skina. Elle va dire, c'est toi qui me lave. Tu dis quoi? J'ai peur. Hein? Non, mais à côté, c'est autre chose. On parle sur laver. Tu dis, non, j'ai peur. La wassiluki. Barakallah, donc c'est pour ça, c'est important. On est voyageurs, qaddar Allah. On a besoin. Celui qui le lave, il n'est pas arrivé à temps, etc. On est devant tout le monde et il attend cette personne. On fait quoi? On le lave pas? On dit que parce qu'on ne connaît pas? Non, on doit apprendre. Et après, on doit apprendre. Et après, par défaut, on dit pour cette mosquée, c'est telle personne qui le lave. Ça, c'est à la base normalement. Pour cette mosquée, on dit c'est une personne connue, qu'elle a l'habitude, qu'elle a l'expérience, alhamdulillah. C'est pas un truc qui demande beaucoup d'efforts. Juste, il faut être patient et regarder, écouter comment, etc. Inch'Allah. Mais cette personne n'est pas venue. On fait quoi? On dit non, celui n'est pas venu. C'est comme salat al-jama'a. Il n'y a pas l'imam, on fait pas la prière en fait. C'est ça en fait. Il n'y a pas l'imam, on fait pas la prière. Non. N'importe qui parmi nous, qui sait lire correctement, il fait sa prière correctement, il est apte de faire salat al-jama'a. D'avancer en imam. Bien sûr, celui qui connaît mieux le Coran, il est mieux que celui qui ne connaît pas. Celui qui connaît, celui qui a la science, c'est mieux qui le connaît pas. On parle pas sur le cas extrême, on parle sur le cas général. Si on n'a pas un imam, on ne fait pas la prière, c'est la même chose. On doit apprendre. Mais on délègue toujours une personne, à la base, c'est lui le référent de ça, mais s'il est absent, chacun parmi nous doit le faire. Comment faire salat al-janaza? Imam, il n'est pas là, on fait quoi? On fait quoi? On dit on ne sait pas? Non, on doit apprendre. Donc ça, on aura l'occasion de parler sur ahkam al-janaza en général. Donc je reviens au hadith. Donc selon le deuxième hadith, قال الحافظ ابن حجر حديث حسن. Donc le degré du hadith, il est authentique. Il est bon. Dans le degré de proche de degré authentique des hadiths. Il dit l'authentique.
والجمع بين الحديثين.
Donc on remarque dans le hadith, le premier il dit il est obligatoire, le deuxième il n'est pas obligatoire. Cheikh il dit pour regrouper chez les deux hadiths. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
أن الأمر في حديث أبي هريرة للندب.
Donc il dit d'après le deuxième hadith, remarquez, c'est pour ça que je dis, c'est souvent il faut regrouper les hadiths pour avoir un jugement. Parce que si on prend un seul hadith, certainement tu vas dire, moi à mon avis c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Et c'est pour ça, c'est parmi les causes que les savants se divergent, c'est ça. Il y a une risale de Charles Taymi Rahman, elle dit أسباب الخلاف بين العلماء. Quelques pages. Wallah, il y a certaines rasaïl qui sont très très profitables. Subhanallah. Ils sont tout petites, mais ils sont énormément avantageuses. Il parle sur les causes de divergence des savants. Parmi ces causes, il a listé 7 ou 8. Parmi ces causes que le savant, il n'a pas su le hadith. Et ça arrive. Il ne faut pas dire non, c'est un savant, il connaît tout. Ça n'existe pas, les frères. Même sahaba, ils étaient avec le prophète, ça leur échappait certaines choses. Comment veux-tu un savant, ça ne peut pas lui échapper un hadith ou un verset ou une parole d'un sahabi qui peut être au compte ce qu'il dit. Donc, en général, le cheikh Silavi, il a ramené un hadith, il dit, donc le premier hadith, il dit l'obligatoire. Mais dans le deuxième, il dit, il est préférable. Donc il a dit, donc, ce qu'on doit comprendre du premier hadith, il n'est pas obligatoire, il est préférable. Pourquoi? Parce que le deuxième hadith, il dit, il est préférable. Donc, pour regrouper ces deux hadiths, on va dire que le premier hadith, c'est vrai, c'est un ordre, mais est-ce que qui implique une obligation? On va dire non. On va dire de préférence. Pourquoi? Selon le deuxième hadith, qui dit, il est préférable.
L'imara wa Abdullah ibn.
Et après, il cite même un autre. Et après, ce qui renforce ce qui vient de dire le cheikh, que le premier hadith de Abu Huraira, il implique qu'il est préférable et non pas une obligation. Il rapporte un autre argument, il dit, ce qui renforce cet avis, ce qu'il a rapporté à Abdullah ibn Imam Ahmed ibn Ahmed. Donc Ahmed ibn Hanbal, il faut savoir que il a un fils qui s'appelle Abdullah. Ahmed ibn Hanbal, il a son fils qui s'appelle Abdullah. C'est pour ça qu'on entend certains livres Abdullah ibn Ahmed, c'est-à-dire Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal. Qui connaît une histoire de Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal? Vous connaissez ou pas? Samir. Ahmed ibn Hanbal, son père, qui connaît? Référence, ou le référent de l'école Hanbalite. Il a appris ses hadiths faible. Il a appris à son fils les hadiths. Il a appris un jour à son fils les hadiths. Les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez même l'histoire de quand certaines personnes venaient voir Ahmed ibn Hanbal, ils disaient combien ton père connaissait les hadiths. Hadith, il disait, il connaissait, mon père connaissait 1000 hadiths. 1 million de hadiths. Ça, c'est son père, Ahmed Mohamed. C'est pour ça que je dis, chaque fois je répète, quand on dit Ahmed Mohamed a dit, ou l'imam a dit, etc. a dit, c'est comme il le valorise, même pas. Même peut-être, il y a certains parmi nous, un savant de ce temps, un contemporain, pour lui, il est plus grave qu'Ahmed Mohamed. Wallah, ça existe, on l'a entendu. Tu lui dis, Ahmed Mohamed a dit, ou l'imam Malik a dit, l'imam Shafi a dit, mais non, ça sert. Ça c'est avant. Comment c'est avant? Le Nabi sallam il dit khairul quruni qarni walladhina yalunahum walladhina yalunahum. Et Ahmed ibn Hanbal et la majorité des grands savants, ils ont vécu le 3e siècle. Ça c'est le prophète, il a dit c'est les meilleurs siècles. Et ces savants, ils ont vécu la majorité des savants, ils ont vécu le 3e siècle comme même dans le 2e siècle Abu Hanifa, il est né dans 80 Hijri, il était dans le 2e siècle. Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed, et certains savants, Bukhari, ou Muslim, et Tirmidhi, il y a beaucoup de savants. Et tu dis, non, ça c'est avant. C'est comme tu as rejeté la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme tu l'as rejeté. Tu dis, moi je te dis, le savant a dit, et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'éloge sur ces savants, et toi tu viens de dire, mais non, c'est pas. Et Ahmed ibn Hanbal, donc je continue l'histoire pour continuer, Inch'Allah. Il a dit, mon père connaissait 1000 hadiths. Subhanallah. 1000 hadiths, équivalent de 1 million de hadiths. Et Ahmed ibn Hanbal lui-même, il a appris à son fils, Abdullah, il a appris à un moment 40 000 hadiths. Par cœur, il a appris. 40 000. Vous connaissez ce qu'on dit 40 000? Peut-être cette librairie, on peut pas remplir cette librairie 40 000 hadiths. 40 000 hadiths. Quand il a terminé, il a dit, écoutez très bien, subhanallah. Écoutez très bien les savants, comment ils étaient très attachés à la parole d'Allah Ta'ala et la sunnah. C'est pas comme ça. Tu le dis, qala rasoul ou qala Allah, c'est comme il n'a pas entendu, subhanallah. Mais tu te trouves aslan, ça rentre même pas. Il a dit, sache mon fils, que ces hadiths, ils sont faibles. Il n'a pas dit le premier jour. Il a appris 40 000 hadiths. Quand il a terminé, il a dit, oh sache mon fils Abdullah, que ces hadiths ils sont faibles. Qui parmi nous apprend 40 000 hadiths? Et à la fin, il reste faible, Samir. À la fin, c'est faible. Pourquoi? Pour protéger les hadiths du Prophète. Comme ça, on saura le faible du faible. Parce que si on ne saura pas le faible, comment on saura l'authentique et vice-versa? Parce que la majorité des savants sont intéressés. Ou les hadiths authentiques. Mais il faut savoir les hadiths faibles. Et l'occasion, celui qui veut revenir, vous pouvez revenir même à des savants contemporains. Muhadith Hadha al-Asr, Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Parmi les grands savants du hadith de ce siècle, que les savants l'ont nommé Muhadith Hadha al-Asr, c'est-à-dire le spécialiste du hadith de ce siècle, c'est Sheikh al-Albani, rahimahullah. Il faut savoir, mes chers frères, que Sheikh al-Albani, rahimahullah, il a authentifié combien de hadiths? 50 000 hadiths. Et quand tu viens, tu lui dis, Cheikh Albani, il a fait des hadiths. C'est comme tu l'as dit, Mohamed Ouzed, il a dit. 50 000. Il a étudié le hadith 60 ans. Sans arrêt. 60 ans, il a étudié le hadith. Il a authentifié 50 000 hadiths. Il a la preuve, c'est la sahiha. De plusieurs volumes. Elle c'est la va'ifa de plusieurs volumes. Vous ne trouvez que des hadiths faibles. Et si c'est la sahiha, elle contient que des hadiths authentiques, etc. 50 000 hadiths, frère. Les savants, c'est bon, c'est l'ont nommé le référent du hadith de ce siècle. Donc, ce qui confirme, donc il a dit, ce qui confirme, renforce l'avis que le rosl de celui qui lave le mort, il est préférable, il n'est pas obligatoire. D'après le hadith qu'on vient de citer, il y a une autre parole qui a rapporté Abdullah ibn Hanbal selon Ibn Omar, radiallahu anhu, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar ibn Khattab, son fils Ibn Omar, kunna naghsilu al-mayyit. Donc ça c'est Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, il disait, on lavait les morts, فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلْ. Donc parmi nous, faisait le bain rituel. وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلْ. Et parmi nous, ne faisait pas le bain rituel.
قال الحافظ إسناده صحيح وهو أسند ما سمع في هذين الحديث وهو أحسن ما جمع به بين هذين الحديثين.
Il a dit, donc selon la parole même d'Ibn Omar, il disait, on lavait les morts à notre époque, c'est à l'époque d'Ibn Omar, parmi nous, il faisait le bain rituel, et d'autres parmi nous ne faisaient pas le bain rituel. Pour dire, il n'est pas obligatoire de celui qui lave le mort, d'après le hadith qu'on vient de citer, qui l'a rapporté le Bayhaqi, et aussi même, selon ce qu'il a rapporté aussi Ibn Omar, qui est le fils de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu wa arda. Donc on va s'arrêter juste là, et on continuera le dimanche, le vendredi, inshallah, comme d'habitude, entre le Maghrib et l'Isha. Le reste, il nous reste deux sujets, on terminera, inshallah, le chapitre de la purification, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. مبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.